Bonjour, déjà, c'est un plaisir d'être là. Ça a été un magnifique voyage, je ne viens pas de très loin, des Hauts de Vevey. Mais je suis venu en train, j'ai eu le bord du lac, j'ai eu toute la plaine entre Bussigny et Cossonay. Franchement, waouh! À part ça, je suis marié, j'ai 3 enfants de 10 à 15 ans. J'habite à Saint-Léger, en dessous de Vevey. Voilà, et j'enseigne principalement à la Haute École de Théologie. Vous en avez certainement déjà pas mal entendu parler ici. Je ne vais pas en dire beaucoup plus. Ma première formation, c'était dans le domaine du management et de l'éthique des affaires. Et cette question du lien, notre place en tant que croyant dans ce monde, y compris dans son monde économique, m'a toujours intéressé. Que ce soit la question de la vocation, à quoi Dieu m'appelle, lundi matin 9h23 ou jeudi, qu'importe. Qu'est-ce que Dieu veut vivre avec moi? Ou bien, justement, un petit peu plus aussi les questions de finances, de système. Voilà. Pour ceux qui aiment les versions courtes, je vous propose de commencer par un résumé en 3 points. Parce qu'en fait, il y a presque tout qui a déjà été dit dans la louange et dans la Sainte Cène. Premier point, face à un système qui parfois nous domine, Christ est Seigneur, il est déjà pleinement Seigneur. Et c'est en tant que fils et fille du Dieu de l'univers que nous pouvons réfléchir au système financier économique. Face à un système du plus fort et du plus riche, c'est mon deuxième point, Dieu a choisi une arme invincible, la gratuité. La gratuité du salut en Jésus-Christ par son Fils que nous avons célébré avec la Sainte Cène. Il est Seigneur et l'arme, c'est la gratuité. Alors, je vous propose un troisième point. Souriez, on en a parlé. Profitez du soleil, de la nature. C'est peut-être la meilleure réponse au système financier. C'est peut-être d'ailleurs même ta place ce matin plutôt qu'ici. Si Dieu t'y appelle, vas-y, mon message n'est pas indispensable. Un système financier juste. C'est un peu notre rêve quand même. C'est quoi un système financier juste? C'est déjà plus compliqué. À quoi ça devrait ressembler? Un monsieur Sedlacek a écrit un livre sur ces questions-là, à cette phrase que je trouve intéressante comme point de départ, je crois qu'il l'a mise dans sa conclusion, mais c'est fondamental. Dire que quelque chose fonctionne est absurde si nous ne connaissons pas le sens et la finalité de cette chose. Une petite anecdote que j'ai vue sur Internet, c'est une femme qui discute avec son père âgé et qui lui demande si la nouvelle tablette qu'il a reçue à Noël fonctionne bien. Ouais, non, c'est pas mal. Ouais, tu t'en sors? Ouais. Tu fais quoi? Ça marche? Ouais. T'as du plaisir avec? Ouais. Puis les applications, tu t'en sors? Quelles applications? Et c'est là qu'on voit, en fait, que le grand-père est en train de couper ses légumes sur la tablette. Bien sûr que ça marche, comme tablette. Mais c'est pas le but. Qu'est-ce qu'on veut avec notre système financier? Ça sert à quoi? C'est la première question. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ce système? Et j'aime bien la rendre plus personnelle. À quoi est-ce que j'aimerais que mon argent serve? Qu'est-ce que j'aimerais faire avec mes choses? On peut parler du système et c'est important. Quelle place on veut lui donner? Quel est le cadre général qui fait que c'est le plus facile pour nous là-dedans? Mais finalement, qu'est-ce que moi je fais? Je vous propose une histoire biblique qui justement parle, je crois, du système et de l'individu. Et comme c'est un sujet complexe, l'histoire est complexe. Et je vais vous la prendre, je vous propose de la prendre en 3 parties. La première partie, une provocation. L'histoire se trouve dans Luc 16. Jésus disait à ses disciples, un homme riche avait un gérant et on vint lui rapporter que celui-ci gaspillait ses biens. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce sentiment désagréable de vous faire arnaquer. Cet homme riche, on vient lui dire, là, tu t'es fait avoir. Je crois qu'on comprend très bien ce qu'il vit. Le maître, donc, qui vient de se faire arnaquer, appelle son gérant et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Présente-moi les comptes de ta gestion, car tu ne pourras plus administrer mes affaires. » Je ne sais pas vous, mais moi, quand je me fais arnaquer, ça bouillonne un peu plus fort que ça. En fait, cet homme riche, très sobrement, il licencie son gérant. Pas d'insultes, pas de coup d'éclat, pas de procès. Ok, on passe à la suite. Le gérant, quand même, lui, par contre, ça réfléchit un peu plus loin. Hein, et il se dit, « Mon maître va me retirer ma charge. Que faire ? Je ne suis pas assez fort pour travailler la terre, j'aurais honte de mendier. Ah ! Je sais ce que je vais faire. Et quand j'aurai perdu ma place, des gens me recevront chez eux. » On ne connaît pas le détail du raisonnement du gérant ici. Est-ce qu'il espère que les gens l'accueillent par compassion, pauvre gérant qui a perdu sa place ? Est-ce qu'il espère peut-être retrouver du travail, se faire connaître de ces gens qui peut-être sont riches, qui ont peut-être aussi besoin d'un gérant ? Est-ce qu'il espère une logique de réciprocité, de donnant-donnant ? Je fais un truc, on va voir ce qu'il fait après, vous le savez peut-être déjà. Et puis en retour, j'espère qu'ils se sentent obligés de m'aider aussi plus tard. Est-ce qu'il espère se faire des amis comme ça ? On ne sait pas trop, mais il essaye de faire quelque chose. Et il fait venir un à un tous ceux qui devaient quelque chose à son maître. Il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?»« 100 tonneaux d'huile d'olive, lui répondit-il. Le gérant lui dit, « Voici ton compte, vite, assieds-toi, note 50. » Puis il dit à un autre, « Et toi, combien dois-tu ? » 100 sacs de blé, répondit-il. Le gérant lui dit, « Voici ton compte, note 80. » Eh bien, le maître félicita le gérant malhonnête, d'avoir agi aussi habilement. Argue. Il a bien agi. Il y a un bug. Il est félicité. Il y a un maître, et souvent dans les évangiles, les hommes riches ne sont pas les plus droits. Ils sont rarement bien vus. Donc un homme riche, on ne sait pas qui, peut-être lui-même un peu malhonnête, en tout cas un homme riche qui comprend très bien ce qu'a fait son gérant. Les raccourcis financiers sont peut-être leur spécialité aux deux. Mais pourquoi le maître loue-t-il son margoulin ? Il y a plein d'interprétations de cette parabole, il faut reconnaître que cette parabole nous embête un peu. Je choisis une qui me paraît la plus plausible et qui se base sur une comparaison avec une autre parabole qui est celle du juge inique. Dans la parabole du juge inique, c'est l'histoire d'un juge qui fait pas justice à une veuve. Et cette veuve vient casser les pieds au juge tous les jours, jour après jour, en espérant qu'un jour le juge reconnaisse et fasse justice. Et l'histoire nous dit qu'à la fin, le juge craque. Non pas parce qu'il aime la justice, non pas parce qu'il a compassion de cette veuve, mais parce qu'il en a marre de se faire casser les pieds. Drôle d'histoire aussi, en fait, quand on y réfléchit. Jésus ne loue pas le juge inique parce qu'il est inique. Mais avec cette histoire, il explique que même un juge inique peut finir par faire le bien. Et il rajoute, à combien plus votre Père dans les cieux peut vous donner ce qui vous revient, ce dont vous avez besoin. Ici, on peut imaginer la même chose. Le maître ne célèbre pas l'entourloupe du gérant en tant que tel. D'ailleurs, il vient de le virer. Quand même, quelques doutes là. On va pas continuer comme ça. Mais le maître pointe que même lui, même le gérant malhonnête, peut finir par essayer de réfléchir quoi faire avec son argent. Il va essayer de bien utiliser l'argent. L'histoire nous provoque, elle ne s'arrête pas là, elle continue avec une exhortation. En fait, la parabole est à mon avis comme une sorte d'exagération pédagogique. On est provoqué, on est interpellé, et nous on la décortique ici, assis dans des chaises, on l'a peut-être déjà entendu. Faut imaginer la foule autour de Jésus, la première fois qu'il raconte ça. Il y a notamment des pharisiens qui croient tous avoir de la Bible. Enfin, il y a plein de gens. Et puis là, ça dérange. Certainement que là, il y en a un ou deux qui se disent, cette fois, on peut l'avoir et on va pouvoir le pincer. Jésus choque son auditoire pour mieux enfoncer le clou dans les versets suivants. Avec cette question qu'on va voir, en fait, si le gérant malhonnête réfléchit comment faire du bien avec l'argent, que doivent faire les vrais disciples? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus, nous, que ce gérant malhonnête? C'est là que tout le monde attend la suite de l'histoire. Et en fait, on découvre que ce gérant malhonnête n'a pas peur du système. Il ne se plaint pas, il ne dit pas « tout est nul ». Ce gérant malhonnête essaye de faire ce qu'il peut dans un système qu'il maîtrise plus ou moins bien, avec des valeurs qui sont plus ou moins justes. Et dans la suite, en fait, Jésus va essayer de tirer le meilleur de cette histoire. Et ça continue par « En effet, les gens de ce monde sont bien plus habiles dans leur rapport les uns avec les autres que les gens qui appartiennent à la lumière. » Avant d'aller à la suite, bien plus habile que ceux qui appartiennent à la lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses trompeuses de ce monde, afin qu'au moment où elles n'existeront plus pour vous, on vous reçoive dans les demeures éternelles. Ah, on a un bout de réponse. Aucun système sur terre ne sera parfaitement juste, c'est ce qu'on proclame, quand on croit qu'il y a eu la chute. Faut pas s'attendre à ce qu'il y ait un système juste. Il y aura peut-être des systèmes plus justes que d'autres. Mais le système parfait, c'est pas pour cette terre. Mais en même temps, on peut réfléchir comment utiliser ce système. Est-ce qu'on profite du système pour les bonnes choses? Dans la parabole, le maître arrive voir du bon dans la recherche maladroite de son gérant. Le gérant se cherche des amis pour après. Mais si le gérant malhonnête arrive voir du bon, d'autant plus le croyant doit comprendre qu'il y a une bonne chose bien plus profonde à faire avec cet argent, même si cet argent vient d'un système qui n'est pas totalement juste. En fait, le gérant a donné une très mauvaise réponse à la situation. Mais il s'est posé la bonne question. Qu'est-ce que je fais avec mon argent? Qu'est-ce que nous voulons faire avec tout ce qu'on profite de ce système qui est peut-être pas parfait, qui est peut-être pas tout juste, mais où finalement on s'en tire pas trop mal, nous ici, par rapport à une grande partie du monde. Est-ce qu'on sait utiliser nos richesses pour se faire des amis, des vrais amis? Pas par entourloupe, mais parce qu'on rêve d'un monde plus juste, d'un royaume de Dieu, où chacun a sa place. Ça, c'est l'exhortation à laquelle Jésus nous invite. Et le texte finit avec une triple un triple rappel. Celui qui est digne de confiance dans les petites choses est aussi digne de confiance dans les grandes. Celui qui est malhonnête dans les petites choses est aussi malhonnête dans les grandes choses. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance dans votre façon d'utiliser les richesses trompeuses de ce monde, qui vous confiera les vraies richesses? Et si vous n'avez pas été digne de confiance pour gérer ce qui appartient aux autres, qui vous donnera ce qui vous revient? Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Premièrement, l'argent n'est pas le bien véritable. Il y a un autre bien véritable qu'on n'a pas forcément encore reçu, qui viendra plus tard. Mettons notre énergie dans les biens véritables. Deuxièmement, l'argent ne nous appartient pas. Il y a autre chose qui nous appartient. Qu'est-ce qui nous appartient vraiment? Est-ce que la seule chose qui nous appartiendrait vraiment, c'est qui je suis en Dieu? C'est quand Dieu me dit, tu es mon fils, ma fille. Ça c'est, et puis tout ce qui va avec, ma personne, mes dons, celui, celle que Dieu a créé. Ça c'est ce qui m'appartient. Le reste m'est confié et ne m'appartient pas. Et du coup, la manière dont je gère les petites choses matérielles qui m'appartiennent pas vraiment ont un impact éternel. C'est là que se jouent les grandes choses qui nous seront confiées peut-être plus tard. Ça détermine pas notre salut. Notre salut, on l'a rappelé à la Sainte Cène, il est acquis, il est éternel. C'est donné, c'est gratuit. Mais peut-être ça nous interpelle quand même sur comment est-ce qu'on est fidèle. C'est là qu'on s'exerce pour notre fidélité dans les grandes choses. C'est qu'est-ce qu'on fait quand la caissière nous a rendu 2 francs de trop. C'est comment est-ce qu'on remplit sa déclaration d'impôt. Comment est-ce qu'on arrondit contre en haut ou contre en bas. Le raccourci sur le parcomètre. La petite triche à l'école, le prix juste pour l'agriculteur, c'est des petites choses si on regarde à l'éternité. Mais c'est là que Dieu nous fait grandir. C'est là qu'il nous enseigne la fidélité, la persévérance. On raconte parfois que si on veut bien connaître le cœur d'un chrétien, il faut pas regarder ce qu'il fait le dimanche matin à l'église, trop facile. Non, le cœur du chrétien, il se teste le vendredi après-midi au travail, quand la semaine a été longue et harassante, que les clients ont été insupportables, et qu'à 4h30, le chef vient et dit, je suis vraiment navré, il y a un imprévu, ce soir on finit à 22h. Là, on voit le cœur de serviteur du chrétien. Là, on voit sa patience et sa persévérance. Là, on teste sa fidélité. J'ai envie de la détourner un peu. Le cœur du chrétien face à l'argent, c'est pas dans l'offrande et la dîme. Ça, c'est facile. C'est dans tous les autres achats de la semaine. C'est dans la manière de négocier sa hausse de salaire au travail. Là, c'est la manière de gérer son deuxième pilier, sa retraite. Là se jouent les grands montants. Là se jouent vraiment nos questions sur qu'est-ce que je fais avec ce que Dieu me confie qui n'est pas vraiment à moi. Et on voit que ces 3 points nous amènent à une conclusion, une affirmation, un rappel fondamental. L'argent est une puissance. Une puissance en tension avec Dieu. C'est pas quelque chose de neutre. Les pharisiens qui écoutaient cette histoire espéraient ou croyaient que du moment qu'ils faisaient leur sacrifice habituel, qu'ils respectaient les fêtes, le sabbat et tous leurs commandements, ils pouvaient ensuite faire ce qu'ils voulaient dans la vie. Si je suis un bon chrétien le dimanche, en fait, tant que je triche pas trop la semaine, c'est bon. Et ici, on a un rappel que la semaine, on doit choisir qui on veut servir. Et qu'il n'y a pas moyen de dire que c'est neutre. Qu'en fait, ça change rien. Que ce qui compte, c'est notre cœur. Hein. Non, il y a un combat. Et je crois que c'est un combat spirituel. C'est pas le séculier versus le sacré. C'est le Dieu de l'univers face à une puissance qui essaye de le remplacer. Nous savons qui a vaincu. Nous savons où se trouvent les vraies richesses. À nous de vivre en conséquence le lundi matin. On est donc invité à une remise en question. Remise en question d'un système dans lequel le maître et le gérant sont pris au piège. Piège de l'égocentrisme. Qu'est-ce que je peux faire pour sauver ma peau? Piège du rationalisme, de la stratégie, du calcul. Je dis pas qu'il faut pas être sage et puis réfléchir à ses dépenses. Mais est-ce qu'on n'a pas des fois envie de maîtriser les choses par nos raisonnements? Si je dis au débiteur de mon maître d'écrire 50 tonneaux d'huile plutôt que 100, alors en retour, je vais gagner ce que je veux. Le piège de vouloir séparer entre le matériel et le spirituel. Tout appartient à Dieu. Pas juste les 10% de la dîme. Tout. Un système dans lequel il n'y a pas de gratuité. Tout est dû donnant, donnant. Alors que nous sommes citoyens d'un royaume qui est basé sur la gratuité. À partir de ce royaume dont nous sommes citoyens, qu'est-ce que je veux comme système? Qu'est-ce que je fais du système? Dit autrement, comment faire pour que les biens, pas toujours justes, de notre système, pas toujours justes, puissent faire avancer le royaume de Dieu et sa justice? Ça, c'est la question qui nous revient dans ce système. Il faut commencer par reconnaître, je crois, que les biens matériels sont trompeurs. Ce sont notamment des fausses sécurités. Je sais pas si vous êtes au bord d'un précipice et qu'il y a une barrière et que c'est écrit « ne pas s'appuyer, ça tient pas ». Alors la barrière, elle nous dit juste « fais attention et mets ta confiance dans autre chose ». L'argent, faites attention, ça ne tient pas. C'est pas que ça tient à moitié, comme la barrière tiendrait à moitié. Une barrière qui tient à moitié, elle tient pas. Ça sert à rien. Une barrière qui tient une fois sur deux, je teste pas. L'argent tient peut-être trois fois sur quatre, je sais pas. Mais pas de bol. Mettons notre confiance dans autre chose. Les biens matériels sont puissants, on a dit c'est une puissance, et je crois qu'ils sont addictifs. Si c'était une substance, ils seraient régulés dans la loi sur les stupéfiants. Les biens matériels sont étrangers, ils sont pas à moi. Ils sont pas véritables. C'est du vent. À nous alors de reconnaître que nous sommes dans ce système. C'est la réalité. Et Jésus n'a pas eu peur de vivre sur terre, donc il n'a pas eu peur de vivre dans un système économique. Il n'a pas eu peur de payer ses impôts à César. Pourtant, c'était pas une démocratie où on pouvait voter sur le budget et comment serait utilisé cet argent. Pas de problème. Nous sommes là-dedans et nous devons le reconnaître. Ça veut dire que nous devons aussi reconnaître que nous profitons très souvent d'une partie des injustices de ce système. Si la Suisse est aussi riche, il n'y a pas que des bonnes raisons. Il y en a aussi des bonnes, mais il n'y a pas que ça. si les études sont aussi bon marché en Suisse, c'est parce qu'on a pu accumuler des richesses et qu'on les a accumulées en partie en profitant d'autres pays. Et on fait partie du système. Il n'y a pas moyen d'en sortir. À moins de renoncer à l'hôpital, à la formation, à moins de jamais utiliser une route, on ne peut pas sortir du système. On en profite. Comme Jésus a profité des routes romaines. Et apparemment, ce n'était pas un péché, puisque Jésus n'a jamais péché. La question, c'est dans ce système, qu'est-ce qu'on veut faire? J'ai envie de proclamer une série de choses, nous inviter à reproclamer qu'un système juste est basé sur des relations justes, des relations à soi, à l'autre, à Dieu et à la création de Dieu, parce qu'elle appartient à Dieu, elle ne nous appartient pas. Nous sommes appelés à en prendre soin, à dominer sur elle, mais dominer en tant que serviteur de Dieu et pas en tant que maître absolu. Bien sûr, la relation que j'ai à Dieu n'est pas la même que j'ai la relation à moi-même ou à l'autre. Mais chacune de ces relations doit être juste en soi. Et là-dedans, je vais devoir du coup me rappeler que ce système économique s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus large, dans une réalité sociale, politique, spirituelle. Je suis jamais en train de faire une pure transaction économique. Je suis toujours en train d'interagir avec quelqu'un. Il y a tout le temps une personne de l'autre côté de la transaction économique. Et je suis toujours devant Dieu quand je la fais. Quand je paye à la caisse ou quand je commande sur Internet, il y a quelqu'un qui me rend mon argent, il y a quelqu'un qui emballe ma commande, il y a quelqu'un qui la livre. Qu'est-ce que ça veut dire être le prochain de ces personnes-là? Je suis toujours membre d'une communauté. Communauté parfois très claire, très visible, quand j'achète à l'épicerie de Cossonay. Communauté beaucoup plus abstraite quand je commande sur Galaxus ou Amazon. Mais toujours membre de cette communauté. Et j'ai toujours une responsabilité face à l'autre en face. Il ne s'agit pas de fuir ma communauté et son système économique, mais peut-être de l'enrichir, oui, d'enrichir cette communauté d'une réalité sociale, économique, créationnelle bien plus grande que son simple aspect économique. Comment est-ce que j'apporte le reste? Quelque chose qui dépasse complètement la théorie économique, qui n'a rien compris sur ce point-là. Comment est-ce que moi j'en sors et je pointe vers quelque chose de plus grand? Dit autrement, comment est-ce que je vis en citoyen du royaume quand je fais mes courses? Comment est-ce qu'un citoyen du royaume fait ses courses? Parce qu'il mange, un citoyen du royaume. Et il sait même faire la fête. Tous les 3 ans, l'Ancien Testament nous invite à récolter la dîme pour faire la fête avec les voisins, tous les autres gens. La dîme! Prenez votre revenu annuel, vous tirez 10%, vous prenez ça de tout le quartier, vous invitez les pauvres et vous faites une fête le week-end. On a un dieu de la fête quand même. Comment est-ce qu'on consomme? Comment est-ce qu'on fait la fête pour témoigner du dieu de vie en abondance? Il s'agit d'agir d'une manière qui repose sur une toute autre base, qui pointe vers une toute autre réalité, et espérons-le, qui va entraîner d'autres avec nous. Parce qu'en principe, faire la fête dans des relations saines, de manière parfaitement vivante, avec un vrai intérêt pour l'autre, les gens accourent, ils ont envie de ça. Agir d'une manière différente, sur pointer vers autre chose au niveau humain. Comment est-ce que je fais savoir à la caissière ou à celui qui prépare mon paquet Amazon Galaxus qu'il a une dignité inviolable en Dieu et que personne n'a intérêt à toucher à sa dignité? Parce que quand on le fait, Dieu s'énerve. Regardez dans l'Ancien Testament. L'histoire d'Akab me marque beaucoup. Akab et Jézabel, roi, reine d'Israël. Ils ont fait toutes les atrocités spirituelles possibles, les idoles, la prostitution sacrée, tout y était. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, il y a un prophète qui va dire à Akab, là, t'as dépassé les bornes, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Maintenant, tu vas mourir. C'est pas une idole. C'est le fait que Akab a commis une injustice économique. Il a piqué la terre de Naboth. Et au moment où il s'est pris la terre de Naboth, Naboth qui a dit, j'ai pas le droit de te la vendre parce que Dieu nous dit que c'est la terre de mes ancêtres et je vais devoir la passer à ma génération. Elle appartient à la famille. Akab décide de tuer Naboth et de piquer sa terre. Et là, Dieu dit stop. Le reste, c'était déjà pas mal. Mais ça, c'est la goutte de trop. Là, t'as touché à la dignité d'un de mes enfants. La veuve, l'orphelin, l'étranger. Si on y touche, on touche à Dieu. Comment est-ce qu'on va rendre aussi à chacun une possibilité de s'épanouir? Le shalom, on le proclame souvent, c'est un mot hébreu qui veut dire la paix, mais la paix pour le monde hébraïque, c'est justement l'état d'une société où les relations sont justes, où les gens se sentent en sécurité, où chacun peut se développer, prendre sa place et contribuer au bien des autres. C'est pas juste l'absence de guerre. Comment est-ce qu'on fait pour que les gens autour de nous se sentent poussés des ailes et puissent se sentir dignes et appartenir à cette société et y contribuer. On a une autre base, on vise autre chose au niveau de la justice. On a récemment, tout récemment dans l'histoire, changé la notion de prix juste. Pour tous les théologiens jusqu'au 17-18e siècle, le prix juste, c'est le prix qui fait que celui qui a produit la chose peut vivre dignement et nourrir sa famille. Payer moins, c'est arnaquer le travailleur. C'est opprimer le travailleur. Payer plus, c'est parfois arnaquer l'acheteur. Même si l'acheteur est prêt à payer plus. Et c'est pas nouveau. Calvin, déjà, s'emporte contre les riches au XVIe siècle, quand il y a une famine dans la région de Genève, parce que les riches gardent les greniers fermés en attendant que les prix montent. L'offre et la demande, vous connaissez, hein? Les gens veulent, donc ils payent plus. On pourrait dire c'est le prix juste, il est prêt à payer ça. Bien sûr que quand il a faim, il est prêt à payer ça. Et c'est pas ça le prix juste. Qu'est-ce que je me dis quand je vois un prix trop bas dans les magasins? Est-ce que je me dis, aïe, il y en a un qui est en train de se faire arnaquer dans la chaîne? Et les finances sont toujours relationnelles. Je l'ai dit, on est dans un système social avant tout. Calvin va permettre l'investissement financier. Mais il va interdire le métier de banquier. C'est seulement le riche lui-même qui va prêter à des gens que lui connaît, dans une relation personnelle que Calvin va autoriser. Et il va dire en plus, et si jamais le meunier peut pas te rembourser parce qu'il a fait faillite, tant pis pour toi, pas tant pis pour le meunier. C'est toujours le riche qui perd pour Calvin. Le but, c'était d'aider le meunier à faire du meilleur grain. C'est pour ça que tu pouvais lui prêter de l'argent. C'est parce que ça contribuait à la société. C'était pas pour que toi tu puisses t'enrichir. Et là, ça a un sens de prêter, d'investir. Et oui, c'est logique que tu touches un petit peu d'intérêt quand tu fais ça. Parce que tu contribues à la société. Mais c'est toi qui prends le risque si ça marche pas. Et c'est toujours personnel. Alors, deux questions peut-être plus abstraites. Qu'est-ce que j'attends de mon fonds de pension? Est-ce que j'attends qu'il me donne une bonne retraite? Ou est-ce que j'espère que mon fonds de pension ait justement de l'argent pour investir dans des projets qui ont du sens? Des projets qui vont aider les plus faibles de cette société. Ça, c'est le but d'un fonds de pension pour un chrétien. Et il y a des millions à disposition dans nos fonds de pension. Et dès que vous êtes dans une entreprise d'une certaine taille, vous pouvez élire en tant qu'employé les délégués, les gens qui vont vous représenter dans la gestion du fonds de pension. On a un pouvoir incroyable en Suisse. On vise autre chose au niveau de la société. L'argent, la propriété privée sont toujours au service de la communauté. Je reviens là aussi à Calvin. Calvin qui dit la propriété privée est légitime, pas de communisme, vous avez le droit d'avoir ce que vous avez. Mais seulement si ce que vous avez, vous l'utilisez pour le bien de la société. Sinon, Calvin dit, c'est illégitime. Ah zut, hein. Oui, soyons contents de ce que nous avons et gérons-le avec responsabilité et passion pour le monde qui nous entoure. Vous voyez, je n'ai pas de réponse toute faite, de formule magique sur à quoi doit ressembler le système financier. On ne peut pas dire ça doit être comme ça, parce que je crois qu'on est dans un monde qui change tout le temps, depuis des milliers d'années, et que le système le plus juste va changer d'une société à l'autre, d'une réalité à l'autre. Et parce que je crois aussi que dans tout système, je peux me poser la question, qu'est-ce que moi je veux en faire? Et quand on est plusieurs à commencer à agir d'une certaine manière, les autres suivront. Nous sommes dans ce monde, mais pas de ce monde. Nous faisons partie de ce système, nous profitons de ses injustices, nous subissons parfois ses injustices. Mais nous raisonnons totalement différemment. Nous attendons autre chose du système économique. Nous attendons pas un travail du système. Nous attendons pas qu'il nous livre nos paquets 24 heures sur 24 à la porte dès qu'on l'a commandé. Nous attendons qu'il contribue au développement de la société et qu'il témoigne d'un Dieu juste, généreux, qui aime le monde, qui aime les gens et qui a envie de les voir s'épanouir dans tous les domaines, spirituellement, mais aussi socialement, relationnellement. Ce monde, quel que soit son système économique, ne va pas nous sauver. On le sait. Acceptons que ce soit aussi le cas pour le système financier. Il ne va pas nous sauver. C'est comme ça. Mais il nous invite à une question. Qu'est-ce que je veux attendre de ce système avec Dieu? Et qu'est-ce que je ne vais pas attendre de ce système? Et comment est-ce que moi j'ai envie de chercher le royaume de Dieu là-dedans? Comment est-ce que je vais agir seul ou avec mon église quand on fait des achats en tant qu'église pour témoigner de la justice de Dieu, témoigner son intérêt pour tous mes partenaires économiques, mettre en lumière la puissance de Mammon et témoigner de la gratuité de Dieu. Même parfois face à l'injustice. La mort de Jésus était gratuite, injuste. Il a dit au Sanhédrin, vous êtes en train de commettre une injustice. Et à ce moment-là, il aurait pu mettre tout le Sanhédrin en prison, il aurait pu les faire se volatiliser. Mais il a dit, vous faites une injustice et je vais aller à la croix. Il a accepté l'injustice, gratuitement. Je crois qu'on doit se battre pour dénoncer les injustices, parce qu'on a un Dieu de justice. Mais on sait aussi que comme on a déjà la victoire définitive, c'est pas toujours trop grave si on perd quelques plumes. Amen.